Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, on vous emmène à Nice pour un entretien-reportage chargé d'émotions, mais aussi dans le Grand Nord canadien et en Alaska. Anne Goscinny raconte une partie de sa vie et de celle de ses illustres parents. Son nouveau roman se déroule à Nice. Nous sommes donc allés sur les traces de son passé pour un entretien-reportage au bord de la mer. Nous irons dans le Grand Nord canadien, donc avec le bédéiste québécois Michel Hellman. Vous allez visiter le Nunavik, grâce à lui, entre misère et splendeur. Et puis nous recevrons Didier Van Kovelaert. Son nouveau roman est un événement en librairie, un livre pour l'été qui va vous faire voyager également de Montmartre jusqu'à une tribu d'Alaska. Il sera question de la possibilité de la réincarnation.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bien sûr, quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. Trois libraires en multiplex, vous allez comprendre pourquoi. Mathieu Colombe représente la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard. Sophie Creuse est également avec nous, elle représente la Belgique. Bonjour Sophie.
Bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes libraire à Waterloo dans la librairie Graffiti. Et en Suisse, c'est Laura Sanchez cette semaine qui est libraire à Genève dans la librairie du Boulevard. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Et on retrouvera Manon Trépanier, notre libraire québécoise, qui est à Nice dans quelques minutes. Nice, où nous allons tout de suite d'ailleurs pour ce grand entretien en déambulation avec Anne Goscinny. On ouvre cette séquence avec le son du monde de la semaine. Une lecture et un témoignage de Franz-Olivier Gisbert dans le Vieux Nice sur la musique franco-irlandaise du trio McDonnell. Un trio qui reprend une célèbre chanson de Francis Lemarque, chantée par Yves Montand, une musique qui est un peu la BO du roman d'Anne Goscinny. Une chanson doudou, m'a-t-elle confié dans les rues niçoises.
L'avion évite la mer et se pose. Ma mère somnole, à peine éveillée par les soubresauts de l'appareil, et ma grand-mère rit aux éclats. Nous sommes toutes les trois. Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Nous ne resterons à Nice que 3 jours, mais ma mère a pris une grosse valise. Une valise qui lui permet d'attendre le printemps, et même de ne pas rentrer. Elle sait peut-être, elle sait sûrement, qu'au prochain voyage, elle sera sans bagage. Quand nous descendons de l'avion, ma mère sourit. Nous voici à Nice, dans sa ville natale, sa ville enfance. À cet instant précis, l'avenir, ce qu'il en reste, c'est clair.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat.
Le livre m'a beaucoup ému. En plus, il se passe à Nice, qui est une ville que j'adore. Et elle en parle très bien, comme ça. C'est derrière. Tout de suite, ouais, j'ai adoré ce livre. Il émeut, quoi. C'est très, très fort. On a des sensations très violentes quand on lit ce livre.
Franz-Olivier Gisbert, vous êtes directeur artistique du Festival du Livre de Nice. Quelle histoire avez-vous avec cette ville? Quels souvenirs en gardez-vous, puisqu'il est question de souvenirs dans le roman de Anne Goscinny?
Des souvenirs très forts. Hein. J'ai des amis, là, comme Jean-Marie Leclésio. J'ai un fils, mon fils aîné, qui a vécu longtemps à Nice, d'ailleurs dans le Vieux Nice. Dès que je peux, dès que je suis dans le coin, j'adore aller à Nice et marcher. Marcher, parce que c'est vraiment Nice, une ville où on marche. Là-dessus, bon, c'est terrible de le dire, parce qu'ici, on est à Nice, mais moi, je suis Marseillais, je vis à Marseille, et à beaucoup d'égards, Nice et Marseille, pourtant, elles n'ont pas tellement de points communs. Les gens ne sont pas les mêmes, d'ailleurs. Mais ce sont des villes qui sont organisées un peu pareilles. J'aime beaucoup cette ville, et c'est toujours un bonheur de me retrouver là. Et alors, vous savez, ce qui est plus important... Moi, j'ai cette espèce de culture littéraire, je reconnais parfois un peu débile, parce que je suis souvent dans le fétichisme. Il se trouve que je suis, comme plein de gens aujourd'hui, quand on l'a vraiment lu, je suis un fou de Nietzsche, d'Épicure, de Spinoza, de tout ce que vous voulez, mais j'ai une grande passion pour Nietzsche. Nietzsche, il a écrit là, rue François de Paul notamment, l'un de ses... son plus grand livre, qui est Le Gai Savoir. Hein, voilà. C'est une ville qu'inspirent les écrivains.
Dans votre nouveau roman, Françoise-Olivier Gisbert, L'arracheuse de dents, vous évoquez l'une des premières femmes dentistes et vous proposez comme ça un grand voyage à travers l'histoire. C'est très dense, moi j'ai été très étonné. Grand voyage à travers l'Amérique aussi, c'est un hymne à la vie également, un peu comme le fait Anne Goscinny. Elle sublime la vie au-delà des drames, au-delà de la souffrance.
Parce que la vie reste toujours. Il y a toujours la vie après la mort. Enfin, et puis la mort, ça crée de la vie. Enfin, faut regarder les choses un peu en face. Et ce personnage-là, au fond, c'est vrai qu'elle vit dans un siècle assez atroce. Bah, remarquez, comme sont tous les siècles de l'histoire de l'humanité depuis l'origine. Et donc,
vous en rajoutez en plus, vous.
Ah, j'en rajoute pas parce que
parce que c'est romancé.
J'ai une lecture de la Révolution française qui correspond à mon avis à la réalité. Il y a eu 1 million de morts. On oublie toujours. Ah, c'est très beau, c'était formidable, on a renversé la monarchie. 1 million de morts. Il y avait vraiment besoin de tuer 1 million de personnes? Hein? Bon, donc, je raconte aussi, à travers les pérégrinations de mon héroïne, à travers une histoire aussi, parce que c'est pour une succession de tableaux, vous pensez bien. Moi, je suis de l'école très conne. Enfin, c'est pas l'école de la plupart de mes contemporains romanciers. C'est, moi, j'ai besoin, parce que je suis très très con, hein, j'ai besoin d'une histoire et de personnages, une intrigue. Voilà. Moi, quand j'écris des romans, je fais pas le beau.
Merci beaucoup, François-Olivier Gisbert. Je vais vous laisser au Vieux-Nice, hein, parce qu'on est là, juste à côté du Vieux-Nice, pour aller du côté de la promenade des Anglais, rejoindre Anne Goscinny. Merci, François. À bientôt.
Merci.
Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine. Et puis voilà.
Voilà, nous voici arrivés sur la promenade des Anglais, ici à Nice, sur la Côte d'Azur, pour la première fois d'ailleurs dans la librairie francophone. Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup de nous recevoir, d'une certaine façon, sur la promenade des Anglais. Votre nouveau roman, Le sommeil le plus doux, vient de sortir chez Grasset. C'est un roman clairement autobiographique, même si vous avez changé 2-3 détails. Cette histoire se déroule à Nice. Votre père, René Goscinny, est enterré d'ailleurs ici, je crois sur la colline du château.
Absolument.
Qui est juste en face de nous là.
Au cimetière, dans le carré juif du cimetière du château, et ma mère est au cimetière de Cocade.
À l'opposé, hein.
À l'opposé, ouais.
Alors votre mère est née ici, c'est pour ça que ce récit se déroule à Nice. Vous arrivez un 24 décembre dans cet hôtel. On est face à un grand hôtel, célèbre, avec sa coupole rose. Vous parlez de ces palmiers aussi qui sont tout au long de cette promenade des Anglais. Ils sont très présents dans votre récit, les palmiers.
Oui, parce que je trouve que d'une certaine façon, dans mes souvenirs de ce 24 décembre, ils ont rythmé notre trajet de l'aéroport à cet hôtel. Et ils ont rythmé tout mon texte, ces palmiers qui étaient là, comme autant de choses verticales et rassurantes.
Et cet hôtel, c'est, on peut le dire, hein, c'est un hôtel mythique, c'est le Negresco.
Voilà, c'est le Negresco, effectivement.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude.
Le 24 décembre, trois femmes arrivent à Nice. La mère du personnage s'installe dans cet hôtel pour y vivre tout ce qui lui reste à vivre. Et elle a pris une grosse valise parce qu'elle espère bien, on est à Noël, qu'elle y verra le printemps, qu'elle y verra l'été. Elle s'achètera un hood de Bermuda et un maillot de bain. Elle est prévoyante pour un avenir qu'elle s'invente, un avenir que sa fille l'aide à imaginer, à inventer. Et dans ma vie personnelle, cet hôtel a beaucoup d'importance puisqu'effectivement, le dernier Noël de ma mère, donc un mois avant sa disparition, on l'a passé là, toutes les deux, dans une espèce de double chambre suite. Tout est démesuré dans cet hôtel et était aussi démesuré à l'époque, en 93, mon chagrin fou de la voir s'éteindre, vraiment comme s'éteint une flamme, enfin à tout petit feu, quoi, mais qui s'éteint.
Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui face à cet hôtel qui a été un moment marquant dans votre vie, évidemment, même si c'est un grand hôtel, vous le dites, un peu rococo, un petit peu passé.
Oui, passé, désuet.
Ouais.
Mais je ressens une espèce de, de tendresse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de tendresse pour cette façade incroyable. Et j'y suis retournée une ou deux fois avec mes enfants, comme pour exorciser le fantôme de ma mère, que je revois encore montant ses marches avec vraiment l'espoir qu'elle allait vivre 3 jours à Nice comme on vit quand on n'est pas malade, quoi, comme on vit normalement, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et j'ai emmené mes enfants qui couraient partout. Mon fils, qui était tout petit, a joué avec tout ce qui était à vendre dans la boutique de l'hôtel. Je pense qu'ils se souviennent de Simon.
Bon, là, on ne va pas y entrer. On va laisser les souvenirs à la porte. Hein. C'est bien aussi de s'arrêter là. Ouais. Et puis, au cours de ce séjour, Anne Goscinny, vous faites une rencontre amoureuse qui s'est déroulée pas très loin d'ici. Alors là, vous entendez les voitures parce qu'on est sur la promenade des Anglais. Et en ce moment, particulièrement, il y a beaucoup de voitures puisque c'est la saison estivale. On va aller dans un jardin, le jardin Masséna.
Voilà, alors là, c'est là que l'autobiographie s'arrête et que le roman reprend sa place. Mais ce qui a eu lieu, c'est que ma mère, qui dormait beaucoup, beaucoup la journée, ben moi, il fallait bien que je me balade un peu, j'allais pas rester enfermée dans cet hôtel. Et je suis partie dans le jardin Masséna et je me suis assise sur un banc. Et sur ce banc, je me suis fait une espèce de promesse intime qui sont à mon avis les seuls qui méritent d'être réellement tenus. Je me suis dit un jour je raconterai cette histoire. Et j'ai raconté cette histoire.
Alors venez, on va s'approcher d'une grande fontaine là, qui est ici, qui est très célèbre. On vous fait sentir la ville de Nice, on vous la fait ressentir aujourd'hui avec Anne Goscinny dans la librairie francophone. Cette fontaine, place Masséna, une place qui a été entièrement rénovée hein, il y a quelques années. Et c'est vrai, Anne, qu'on lit un peu votre livre comme une émancipation forcée, c'est-à-dire votre personnage, vous-même sans doute aussi, vous devenez adulte en aimant un homme, en perdant aussi votre maman. C'est une façon de devenir adulte aussi, ça.
En fait, c'est un livre qui parle beaucoup de passages de témoins. La grand-mère offre à sa petite-fille cette comptine yiddish, ainsi que 3 objets, un chandelier à 7 branches, une pendule et un couteau à pain, c'est-à-dire l'outil, le temps et l'identité. La mère offre à sa fille une bague qu'elle gardera. Et cet homme offre à cette jeune femme le droit maintenant d'être aimé comme on aime une femme. J'ai essayé de balayer toutes les transmissions possibles.
Bon, on va se diriger vers le vieux Nice, on va contourner cette grande fontaine, on va vers l'église Sainte-Rita qui a une certaine importance dans votre roman et on va y retrouver notre libraire canadienne Manon Trépanier, que vous connaissez Anne, puisque vous avez déjà fait l'émission, et puis un libraire niçois, Patrick Esclapez, qui participe pour la première fois à la librairie francophone. Allons-y, c'est à quelques mètres de là. Et Anne Goscinny, sur cette ville de Nice, vous écrivez ces phrases. J'ai pioché quelques phrases comme ça, que j'ai mises bout à bout. Je décide alors de me promener dans cette ville que je connais si mal. J'ai l'impression que les palmiers me regardent, murmurent et se chuchotent des secrets, font des messes basses. Trouver la chapelle de Sainte-Rita est une question de vie ou de mort. Je me dirige vers la vieille ville, traverse le cours Salia. Et nous y sommes.
Et nous y voilà.
On traverse en ce moment même ce cours Salia avec le marché, les restaurants, les bars qui sont autour.
C'est vrai que le 25 décembre, ça n'avait pas cette allure-là. Que c'est beaucoup plus joyeux aujourd'hui.
Ah oui, c'est toujours mieux l'été que l'hiver.
Voilà.
Où que l'on soit d'ailleurs.
Oui, mais l'hiver Nice est loin d'être triste. Il y a une lumière très particulière l'hiver à Nice.
Et c'est surtout l'effet de Noël, vous en parlez ça.
Ouais.
Vous dites comment ça se fait qu'à chaque fois qu'arrive Noël, on est dans une forme de dépression, où que l'on soit, quelle que soit la situation dans laquelle on est d'ailleurs.
Alors ça me fascine. Mais ça c'est parce que pour un romancier, Noël c'est une période extraordinaire, c'est-à-dire que tout est exacerbé. Les gens que vous n'aimez pas, le 24 décembre vous les détestez, et le 26 à nouveau vous les aimez pas. Les gens dont vous êtes fou amoureux, le 23 décembre bah, vous êtes fou amoureux, le 24 décembre vous voulez mourir pour eux, quoi.
Bonjour. On nous salue avec ce micro évidemment repérable. Voilà, on va rejoindre nos libraires qui sont pas très loin d'ici, alors... On a rendez-vous à Cours Salia, mais c'est vrai que c'est le marché, alors on va essayer de les trouver. On a donné un lieu de rendez-vous très précis. On va couper à travers le marché avec les fleurs d'un côté, le poisson de l'autre. Petit mélange d'odeurs.
Ah bah tiens, regardez, notre libraire québécoise, Manon Trépanier.
Bonjour, bonjour Manon. Emmanuel.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, comment pourrais-je ne pas bien aller? Je suis à Nice avec Emmanuel Queyrade et je rencontre Anne Goscinny. Bonjour Anne, je suis ravie de vous rencontrer.
Moi aussi.
Alors on a Patrick qui devrait être dans les parages, notre libraire niçois. Ah voilà Patrick.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, très bien.
Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes libraire à Nice, dans la librairie Jean Jaurès, qui est pas très loin d'ici, à la lisière du Vieux-Nice. Hein. Vous êtes quasiment dans le Vieux-Nice. Vous avez lu, évidemment, le livre d'Anne Goscinny. Alors, écoutez, à vous l'honneur, puisque vous êtes le petit nouveau de la bande.
Ah oui, là, ce qui m'a étonné dans ce livre, déjà, au départ, c'est la mélancolie. Et puis après, au fur et à mesure qu'elle voyage dans Nice, qu'elle rentre dans la ville, ça revient plus gai, plus joyeux. Il y a un petit passage qui m'a étonné quand même, qui m'a rappelé beaucoup de choses, c'est le lendemain de Noël à Nice.
Ah bah tiens, on en parlait justement.
C'est assez étonnant, il y a des Noëls, il fait très souvent beau, très très souvent beau, et le dimanche sur la promenade, c'est rempli de gens qui ont ouvert leurs cadeaux, qui se promènent avec les vélos neufs, avec les télétêtes, et puis il y a aussi des gens qui sont tout seuls, des gens âgés qui sont tout seuls, qui n'ont pas passé de Noël avec leur famille, et ça j'ai retrouvé dans un certain passage-là, C'était vraiment la mélancolie de ces gens-là que j'ai ressenti.
Et ça vous a plu?
Ah oui, il est très beau. C'est pas très gai, c'est pas. Mais ça part quand même sur un souffle de joie après de renaissance. Mais c'est peut-être grâce à Sainte Rita, très certainement grâce à Sainte Rita.
Ah mais Sainte Rita a dans la vie de ma mère une importance inouïe puisqu'elle disait que c'est grâce à elle qu'elle a eu son bac puisque c'était la sainte des causes désespérées.
Oui, c'est
vous nous amenez, vous nous montrez le chemin?
Oui, bien sûr, allons-y.
Allons-y. Chapelle Sainte Rita, église Notre-Dame de l'Annonciation. Manon Trépanier, on vous présente donc l'église niçoise.
Mais je la connais, Emmanuel, cette église.
Ah, vous la connaissez.
Bien sûr que je la connais.
Vous êtes une fidèle de la ville de Nice, voilà. Vous êtes en congé régulièrement ici.
Oui, voilà, je suis amoureuse de la ville.
Alors, devant cette église, allons-y, provoquons le destin. Qu'avez-vous pensé du livre d'Anne Goscinny?
Ah, moi j'ai adoré, j'ai été profondément émue par le personnage de cette femme. Et je vais vous dire, il y a quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. En fait, c'est quand vous parlez de toutes ces voix-là qui forment une espèce d'orchestre à l'intérieur de soi, moi, j'ai trouvé que vous exploriez ce sujet avec beaucoup de force, beaucoup de justesse aussi. Puis j'ai trouvé que la petite touche de réalisme magique dont vous parsemez votre livre, dans le fond, c'est très bien vu là, pour rendre compte de tout ce que nous laisse ceux qu'on a profondément aimés. Aussi, une autre chose que j'ai adorée, c'est l'amour fou entre la fille et sa mère. J'en parle, puis je suis encore émue parce que c'est rarement exploré de cette façon-là. Vous avez un ton juste, vous avez une belle construction qui réserve des surprises au lecteur. Bref, j'ai adoré votre livre. Merci.
Je crois que je vais aller vivre au Québec.
Et votre voix, Manon, est reconnue parce qu'il y a des passants, vous ne l'avez pas vu, mais qui ont compris qu'on faisait la librairie francophone en plein centre-ville de Nice.
C'est pas moi, c'est l'accent,
Emmanuel. Ils sont très surpris, voilà, entre nos deux voix, voilà, on est repérés. Alors, vous écrivez, Anne Goscinny, « Je suis venue te voir parce qu'une femme s'éteint exactement comme l'un de tes cierges. » Et puis, il y a un petit cahier mis à disposition, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, votre personnage écrit « Si tu croises mon père, dis-lui de se raser, sa femme arrive. »
Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'était un peu une façon de calmer le jeu de l'émotion, parce que même en écrivant, j'étais essoufflée souvent. Et j'ai voulu d'ailleurs que ce livre soit bref et dense, parce que j'ai voulu qu'il soit urgent. Urgent dans sa forme, dans sa construction, comme il a été tout d'un coup urgent pour moi de l'écrire 22 ans après la mort de ma mère.
Et aujourd'hui, pour vous, cette ville de Nice, c'est un lieu de mémoire toujours douloureux?
Douloureux, non, parce que j'ai la chance d'avoir un Simon de 15 ans et une Salomé de 13 ans, et un mari que j'aime infiniment, qui est leur père. Et donc, plus rien n'est aussi douloureux que ça a pu l'être. Mais mes parents reposent ici. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'atterris à Nice, c'est jamais très simple, quoi. Je balance toujours entre grand bonheur d'être ici parce que c'est une ville incroyable. Et en même temps, j'ai un peu peur. J'ai toujours un peu peur.
C'est vrai qu'il y a des villes inaccessibles pour nous en raison de traumatismes. Et pourtant, c'est très drôle parce qu'à un moment, on arrive à y retourner. Il y a comme un accueil comme ça, on se sent un peu apaisé, on y retourne avec plaisir. Vous en êtes là, vous, ou pas encore ?
Bah écoutez, quand je vous entends parler de ce que j'ai fait de cette histoire-là, j'en suis carrément là, oui. je suis très, très apaisée, là, ce matin. Oui. Mais oui, c'est ce que vous dites est vrai. Et je pense que 22 ans après, le temps du mieux-être est venu, bien sûr.
Vous en avez confié des choses aujourd'hui, Anne Gossini.
Oui, bien sûr.
Avec ce livre, avec cet entretien, ça va ?
Oui, ouais. Ça va. Ça, bien sûr que ça va. J'irai cet après-midi mettre un cierge au pied de Sainte Rita. Je ne sais pas très bien pourquoi, puisque je n'ai rien à lui demander en particulier, si ce n'est de revenir ici avec vous, peut-être.
Ok, on le fera. Merci beaucoup, Anne Gossini. Merci infiniment.
Merci, Emmanuel.
Le sommeil le plus doux est paru aux éditions Grasset. Merci d'être revenu à Nice pour illustrer ce roman à la radio, comme ça, comme une déambulation, comme on l'a fait tout à l'heure dans cette librairie francophone. À bientôt, Anne.
À bientôt.
Merci, Manon.
Merci, Emmanuel.
On vous retrouve tout à l'heure pour la chronique des libraires. Vous restez à Nice. Moi, je vais repartir en studio. Et merci beaucoup, Patrick.
Et c'est moi qui vous remercie.
La librairie Jean Jaurès, magnifique librairie où j'achète mes livres quand je viens à Nice. Voilà, je vous le confie.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Moi, j'ai un message à faire passer avec Sainte Rita, c'est deviens adulte. Donc, retrouve ton cœur d'enfant. Voilà.
Parfait, on va terminer. Merci, monsieur. Merci. Voilà le hasard de la vie avec les passants qui viennent nous transmettre des messages. Merci beaucoup.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et de Nice, on part dans le Grand Nord canadien. On prend le vaisseau Benjamin Biolay pour y aller. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Smith, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber. Qu'on fera du hors-piste, nu comme des vers sur les sentiers de l'apocalypse. Qu'on va mourir sans s'oublier, sans s'oublier. Le twist jusqu'au fond de ma chair. Je vois la naviste. Je me rapproche de la terre. Mourir c'est trop triste. C'est oublier tout entière. Je ne peux pas non me passer de toi. Me passer de toi. Tu ne peux pas non me priver de toi. De toi. Thank you.
C'est le nouveau Benjamin Biolay, Miss Déambulation Musicale. Qu'en pensez-vous ? C'est pas mal, non ? Bon, hein, c'est bien, Mathieu Colombe.
Je ne m'exprimerai pas sur le
sujet. Très bien, merci. C'est une très belle chanson sur votre radio francophone publique.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Ah, la spontanéité de cette émission. Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires. On commence par les meilleures ventes. D'ailleurs, tiens, on ne vous punit pas. C'est à vous, Mathieu Colombe. Meilleure vente à Aix-en-Provence.
Eh bien, Aix-en-Provence, chez moi, la meilleure vente, c'est En attendant Bojangles, chez Finitude.
Encore ?
Oui, encore.
Ça n'en finit pas.
Ben, c'est-à-dire que, outre le fait qu'il est excessivement primé, ce livre a été porté par mes petits camarades. C'est-à-dire que vraiment, mon équipe l'a vraiment aimé, donc ils arrivent vraiment à bien en parler. Et c'est vrai qu'il est loin devant tous les autres. Mais ceci étant dit, pour la saison, c'est un livre qui est tout à fait agréable.
Pour l'été, oui. Olivier Bourdeau aux éditions Finitude. Et le nouveau livre de Didier Van Kovelaert, alors que l'on recevra tout à l'heure. Et ça décolle un petit peu.
Eh bien, oui, il est
niçois en plus, Didier. Il est de la région. Hein.
Il est pas trop mal classé parce qu'il est déjà dans le top 10.
Très bien. Bon, on verra ça tout à l'heure. On verra comment vous avez lu ce livre-là. Dans le rayon des essais, on part en Suisse, Laura Sanchez.
Oui, Jean-François Billetter est sinologue, mais il ne s'est pas limité à cela. Il semble avoir lu et assimilé toute la philosophie occidentale. Donc, fort de ce bagage, il observe et commente le monde passé, mais aussi celui à venir. Il nous emmène sur les chemins de l'érudition, mais aussi vers un peu d'élévation. Ses textes courts sont denses et lumineux. Moi, je dis chapeau bas, monsieur Billetter, pour ses esquisses publiées chez Alia.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va vous suivre. Merci, Laura.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Michel Hellman.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis nos studios de Montréal. Vous publiez Nunavik, un récit graphique paru chez Pow Pow. Le Nunavik est une région située au nord du Québec. C'est un endroit difficile d'accès avec des très longues distances. Il représente un tiers de la province de Québec. C'est la superficie de la France, mais avec 11 000 habitants seulement.
Oui, c'est ça.
Alors vous y êtes allé chercher l'inspiration, un peu comme votre personnage ?
En fait, j'ai toujours été passionné par la région. J'y ai été invité en 2008 pour faire un reportage pour le magazine Géoplein Air.
Oui.
Et ça m'a complètement fasciné. J'ai décidé d'y retourner de mes propres moyens, vraiment pour, voilà, comme dans la bande dessinée, pour trouver l'inspiration et pour pouvoir en parler un petit peu aussi, parce que c'est une région qui est méconnue.
Et vous parlez donc des Inuits. On dit d'ailleurs un Inuk des Inuits, précision importante. Et tout commence donc avec le voyage, qui est une vraie expédition, hein, Michel. On prend un petit avion à hélice, très sensible aux turbulences. C'est un peu particulier comme expérience.
Oui, absolument. Ça ressemble un peu à ce genre de voyage qu'on faisait dans les années 30. Là, peut-être j'exagère un petit peu, là, mais c'est vraiment une aventure. Et pourtant, dans le Québec, c'est un autre monde.
Quand vous arrivez sur place, vous constatez que la population a de petits problèmes avec l'alcool. Alors c'est très encadré, hein. Il y a plusieurs passages comme ça. Vous arrivez sur place, il y a des bars dédiés. Mais ça dérape assez souvent, c'est un vrai problème là-bas.
Oui, en fait, c'est des gros problèmes avec l'alcool, avec les drogues. En fait, dans ma bande dessinée, je voulais confronter les idées reçues, les préjugés qu'on pourrait avoir par rapport aux Premières Nations et l'alcool. Parce que même si l'alcool, même s'il y a vraiment des gros problèmes avec ça, quand on en parle dans les médias dans le sud du Québec, on a l'impression que c'est ce qui caractérise la vie des Autochtones et qu'ils ne peuvent pas se relever. Donc je voulais montrer que même s'il y avait des problèmes d'alcoolisme, des problèmes de violence, c'était pas non plus... C'était pas non plus ce qui définissait le Grand Nord.
Ouais, ouais. Alors vous soulignez hein, dans cette bande dessinée la marginalisation des Inuits, la junk food comme on dit en anglais, qui entraîne des maladies, la pauvreté, la violence, l'alcoolisme. Une jeune femme que vous rencontrez vous dit que c'est le tiers-monde dans votre propre pays, dans votre propre province, et tout le monde ferme les yeux.
Oui, et c'est vraiment vrai à plusieurs égards, je suis d'accord avec ce qu'elle m'a dit. Comment on traite les autochtones, c'est assez choquant même. Ils vivent dans des conditions, il y en a qui vivent dans des réserves, ils n'ont pas accès à l'eau potable. Il y a les problèmes de suicide immenses et on n'en parle pas. On préfère fermer les yeux ou quand on en parle, c'est quand il y a eu une vague de violence récente. Mais voilà, disons que ça reste un peu caché, on met ça sous le tapis.
Donc c'est une partie du Québec qui est un peu délaissée ?
Complètement délaissée, méconnue et même à je pourrais même dire méprisée par une grande partie de la population. Quand on parle du Nord, c'est un endroit où on va pour faire de l'argent. Ou alors, je veux dire, il y a un racisme, il y a beaucoup de racisme aussi au Québec, au Canada, contre les Autochtones. Donc moi, je voulais parler du Nord, bah, voilà, pour peut-être parler un peu des autochtones, mais parler aussi d'une région qui était magnifique, qui m'a beaucoup marqué, des paysages incroyables. Et tout ça complément, voilà, quand on parle du tourisme, il y a du tourisme partout sur la planète, mais dans le Nord, il n'y en a presque pas. Et je me dis, c'est quand même incroyable ce potentiel.
Bon, vous allez nous donner votre ressenti avec ces paysages magnifiques, la toundra notamment, dans quelques instants, juste après trois libraires qui ont lu votre livre, évidemment, Michel Hellmann. Sophie Creuse, en Belgique, vous voulez intervenir?
Mais oui, mais ce carnet de voyage en forme de reportage, là, finalement, comme on vient de l'entendre, je l'ai trouvé à la fois attachant et puis effectivement accablant dans tous les sens du terme, mais en particulier quant à notre responsabilité à nous, culturelle et économique, dans ce Nord perdu. Cette acculturation dont il a parlé, cette misère sociale, ce gâchis écologique, eh bien, nous saute à la figure.
Et du côté de la France, comment s'est passée la lecture, Mathieu Colomba?
Eh bien, bon, déjà, c'est un baptême du feu, hein, parce que je suis très ignare en bande dessinée québécoise, mais je pense que Nunavik m'a conquis. Moi, j'ai été plutôt sensible justement à ces petites touches d'humour qui sont disséminées tout au long de la bande dessinée, qui sont assez fines, qui sont vraiment calées au millipoil et qui sont très bien. Mais surtout, évidemment, le sujet principal qui est le Grand Nord est vraiment passionnant, parce qu'on découvre un univers méconnu de nous tous, qui est rude, qui est peinant, mais qui ne se départit jamais de sa grande majesté, je trouve. Et en plus, c'est servi dans un style simple. Et sans fioritures, c'est vraiment une très belle découverte.
Très bien. Laura Sanchez, pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, moi je rejoins complètement mes collègues, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée, il y a de l'humour mais aussi de la gravité et de la nostalgie. Et puis ce ton personnel que vous employez fonctionne très bien, on est avec vous dans les méandres de la création, de la paternité et aussi dans ce voyage initiatique dans le Grand Nord. Alors sinon j'avoue que je ne suis pas très touchée par le dessin, à part les apparitions de caribous qui sont juste incroyables.
Dessin épuré, hein, c'est vrai Michel Hellmann, il faut le souligner, des dessins très simples.
Oui, oui, oui. Ben, en fait, il y en a beaucoup qui ont été scannés directement de mon carnet de voyage.
Ah oui, d'accord. Ouais. Alors du coup, c'est un peu restrictif, non? Quand on a ces paysages magnifiques, c'est difficile déjà de rendre compte sur un dessin, non? Comment vous avez fait ça? Vous êtes posé la question d'ailleurs de rendre compte les grands espaces canadiens et le Nunavik en dessin?
C'était difficile. Je me suis dit que j'aurais pas pu faire un dessin qui fait justice à ces paysages. Ah, je voulais donc me concentrer dans la bande dessinée avec les rencontres que j'ai faites avec les gens. Ouais. Les dialogues. Et puis aussi, j'ai vu un cratère avec l'eau qui est soi-disant la plus pure du monde. Oui. J'en ai rapporté avec moi et je l'ai utilisé pour faire les lavis, les tons gris. Donc c'était un peu ma manière de rendre hommage au paysage. C'était avec cette manière indirecte.
Voilà. Alors qu'est-ce que vous ressentez, tiens, justement face à ce cratère avec cette eau que vous voyez de l'avion, hein, vous dites, on dirait un œil comme ça, un œil, l'œil du cyclone quasiment. Et puis la toundra aussi, c'est sublime. Vous êtes subjugué devant la toundra.
Absolument subjugué. Et c'est quelque chose qu'il faut voir une fois dans sa vie, au moins.
Alors il y a des désagréments aussi hein, dans le Nunavik, avec des nuages de moustiques. Alors ça c'est incroyable parce que les moustiques fonctionnent comme ça par nuages et puis ils vous attendent derrière la fenêtre en nuée le soir. Il est impossible de sortir de la cabane pour aller uriner et se faire manger la... comme vous dites, les moustiques du Grand Nord sont beaucoup plus agressifs que ceux du Sud.
Oui, oui, oui. Et puis, si vous êtes déjà allé dans le sud du Québec, vous savez que les moustiques sont quand même déjà agressifs. Alors, ça vous donne une idée de comment ils sont dans le Nord. C'est un endroit sauvage. C'est peut-être ça qui fait son attrait entre les moustiques, les ours. On sort et puis il n'y a pas de route. On se rend compte qu'on marche sur des sentiers qui ont probablement jamais été parcourus auparavant. C'est quand même incroyable de voir ça.
Et puis, un écosystème important aussi avec la migration des caribous.
C'est une des dernières grandes migrations de mammifères qui existent en Amérique du Nord, quand on pense que les bisons ont été décimés. C'est aussi une des plus importantes qui reste au Canada. Les troupeaux sont en train de dépérir. Et puis c'est au Québec où il reste la plus grande concentration de caribous. Je voulais voir ça avec mes yeux. Mmh. Et quand on les voit, quand on les entend aussi, le bruit qu'ils font, des sabots sur les pierres, c'est vraiment c'est un spectacle. Ça, les vibrations, ça rentre directement dans le cœur. C'est vraiment... C'est un spectacle que je n'ai jamais oublié.
Et puis vous constatez des choses hein, avec le dérèglement climatique. Michel Hellmann, par exemple, la taille des troupeaux de caribous qui diminue et même de nouvelles espèces d'oiseaux qui apparaissent avec des canards, par exemple, qui arrivent et qui n'ont rien à faire là.
Oui, ben ce n'était pas exactement un canard, mais c'était un
oiseau.
Une
sorte de canard.
Guide, ouais. Voilà, mon guide, j'ai fait un canard dans la bande dessinée, ouais. Mon guide inuit. On voyait des animaux, on voyait des phoques, on voyait des bêtes extraordinaires, mais lui, il était concentré, il a vu un oiseau, il a dit j'ai jamais vu cet oiseau-là auparavant. Et c'est vraiment dans le Nord qu'on voit on sent les transformations qui sont en train de se passer avec le réchauffement climatique. Et ça, c'était l'été. Alors j'imagine l'hiver avec la banquise, ça doit être encore plus dramatique.
Voilà, il y a plein d'histoires comme ça dans cette bande dessinée. On découvre vraiment un paysage. Vous apprenez énormément de choses. Merci beaucoup Michel Hellman.
Merci.
Nunavik est donc paru aux éditions Pao Pao. Et si vous voulez aller dans le Grand Nord canadien, eh bien c'est un livre parfait pour vous initier à cet endroit. Petit livre graphique entre la BD et le récit de voyage. À bientôt Michel. Vous y retournerez peut-être dans le Nunavik, oui?
Ah oui, c'est sûr.
C'est sûr, très bien. On vous croisera peut-être. À bientôt.
Au revoir.
Et on reste dans le rayon des BD et même au Canada, ou presque, car on retourne à Nice et on rejoint Manon Trépanier. Où êtes-vous en ce moment même, Manice, Manon?
Je suis au paradis, Emmanuel, puisque je suis dans la zone piétonne à Nice, sur la rue Paradis.
Ah oui, très belle rue, très bien. Allons-y, quel est votre choix dans la catégorie BD?
Alors, c'est « La femme aux cartes postales » de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement. C'est paru chez La Pastèque. Ce que ça raconte, eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui quitte son petit village pour devenir chanteuse de jazz dans le Montréal des années 50. C'est une reconstitution historique incroyable qui croise deux époques, en fait, les années 50-2002. Et le dessin est absolument époustouflant, tant par sa beauté que par les détails. Et le scénario est parfait, serré, haletant. Le résultat, un roman graphique sur 227 pages, abfab, c'est-à-dire absolument fabuleux.
Merci Manon. Soyez sage à Nice quand même, hein?
Pas trop quand même.
La femme aux cartes postales de Jean-Paul Hyde aux éditions La Pastèque. Pour les rayons des livres de poche, on écoute les conseils de Sophie Creuse, qui est en Belgique en studio, tranquillement installée. Oui. Qu'est-ce qui est redoutable?
Oui, c'est redoutable de passer après Manon quand même.
Alors vous êtes voilà, jalouse, moi je vais vous parler. Ça, vous êtes pas à Nice. Ouais.
Non mais voilà, je vais vous parler du voyage d'Octavio de Miguel Bonnefoy qui paraît en Rivage Poche. Et vous allez voir, on reste dans la thématique d'aujourd'hui parce que c'est un premier roman d'abord enchanteur qui s'apparente au réalisme magique de Garcia Marquez. Et on suit un analphabète, un doux brigand dans un Venezuela qui a spolié toutes ses richesses culturelles, naturelles, éthiques, au détriment mais du vrai, du simple, du beau. Une pure merveille.
Le voyage d'Octavio. Merci Sophie. La librairie francophone avec Anne Goscinny, Michel Hellman et Didier Van Kovelaert. Prix Goncourt en 94. Chaque nouveau roman est un événement. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes un écrivain français d'origine belge. La précision est importante dans cette émission, vous le savez, mais aussi né à Nice. Mm-hmm. Décidément, la ville de Nice est à l'honneur.
Je suis d'actualité. Là,
ouais. Complètement, là, vous êtes dans l'émission où il fallait. Nice, vous avez quel souvenir, vous, tiens?
On parlait de Nietzsche tout à l'heure.
Oui, alors, c'est Franz-Olivier Gisbert.
Il était en train d'écrire, en effet, le Gai Savoir. Lorsqu'il y a eu un tremblement de terre gigantesque, tout le monde, il était donc près du quai des États-Unis, tout le monde est descendu à quitter les maisons, sauf lui. Et sa loge lui fait signe, je termine. Et il a terminé son chapitre. Après, il est descendu. Quand il a vu l'état de la ville, comme quoi les écrivains sont parfois protégés quand ils sont en cours de chapitre.
Bon, alors là, ça ne se passe pas à Nice, hein, cette fois-ci, votre roman. C'est plutôt du côté de la butte Montmartre, à Paris. Et puis, on va aller ensemble en Alaska, dans une tribu amérindienne, avec la possibilité d'une réincarnation. Entre le Grand Nord canadien et le Grand Nord des USA, il y a une chanson et un pont francophone avec la chanteuse Cœur de Pirate.
Tes lèvres en tremblant cœur et l'homme que ton cœur porte sans moi fort. Et si le combat prend fin, c'est sûrement parce qu'on t'a pris par la main et tout battu. Me murmure que tout ce que j'aime, tu me l'assures. Et dans tes défaites, tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain. Et doucement, tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse.
Tremble encore sous mon poids, son cœur vibre plus fort. Et les craintes qu'elle a s'amplifient. Elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Tout bas, je lui murmure de calmer toutes ses inquiétudes. Et dans mes mensonges, je lui rappelle qu'à mes yeux, il n'y a plus qu'elle.
Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu me fais voir les plus douces de tes histoires. Et plus notre idylle avance, d'autres filles entrent dans la danse.
La talentueuse québécoise Cœur de Pirate, tatouée comme notre libraire Mathieu Colomb, pour un infidèle, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS, et sur France Inter. Vous marrez pas, c'est vrai. En plus, vous adorez Cœur de Pirate. Allons-y, enchaînons.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Restons sérieux quelques instants. Didier Van Kovelaert est dans la librairie pour On dirait nous, paru chez Albin Michel. Didier, il y a ces premiers mots qui débutent votre roman et qui captent tout de suite notre attention. C'est assez rare ça d'ailleurs, tout de suite d'être capté par la première phrase. Vous écrivez, justement, il y a des phrases anodines qui peuvent influencer le destin avec autant de brutalité qu'un serment ou un pacte.
Oui, c'est la phrase en question, c'est la phrase que va prononcer Soline, qui est une jeune violoncelliste qui, avec son compagnon Ilan, est sur au bord de l'entrée du square où ils ont leurs habitudes amoureuses le week-end, sur un banc, et le banc est pris. Le banc est pris par deux vieux, voilà, qui se tiennent la main en mangeant des éclairs au chocolat comme s'ils venaient de se rencontrer. Et elle dit « on dirait nous à leur âge ». Et pourquoi ? Parce que c'est la même connivence, c'est la même sensualité, c'est le même humour dans l'œil, et puis la même tendresse et la même précarité aussi.
Et ça influence le destin alors ?
Ouais.
Sauf parce que là, on dirait nous, généralement on dit « on dirait nous » quand on avait leur âge. Non. Là, ils n'ont pas encore leur âge.
Mais ils se projettent ouais, parce qu'en plus, au bout du banc, ouais, il y a un fauteuil roulant qui sert de desserte pour les gâteaux, pour leur goûter. Et quand Ilan lui demande « Pourquoi tu dis qu'on dirait nous ?» Et elle répond « On ne sait pas lequel des deux protège l'autre.
Ouais. » Alors, vous évoquez aussi un monde qui ne veut plus de nos rêves, ce sont vos mots. Du coup, la transgression, c'est notre seul moyen de résister. Transgresser les convenances, passer outre les conventions, c'est le pacte que va proposer un vieux couple à de jeunes amoureux, les fameux. Yoa est âgée, elle est atteinte de la maladie de Charcot. Elle va bientôt mourir et elle vient d'une tribu d'Alaska. Mais chez elle, la mort n'est qu'un passage. Alors George, son mari, demande simplement au couple « Verriez-vous un inconvénient à ce que mon épouse se réincarne dans votre enfant ?»
Oui, parce que les Indiens Tlingit, cette tribu d'Alaska qui existe, je ne l'ai pas inventée, pratiquent la réincarnation d'une manière très particulière, c'est-à-dire que de leur vivant, les gens choisissent leur prochaine famille d'accueil, celle à qui ils vont demander le droit d'asile posthume. Donc ils font un entretien d'embauche, une sorte de casting, pour ne pas se tromper. Il faut avoir un couple qui s'aime, qui est susceptible de bien élever les enfants. Donc
ça c'est votre regard occidental, je pense que ça se passe plus simplement, non ?
Non, c'est exactement ça. Non, là, ce sont, à ma connaissance, les seuls au monde à le pratiquer comme ça. Sauf que là, c'est en Alaska, c'est à l'intérieur du clan, c'est une société matriarcale avec des clans, des codes très précis, des signes de reconnaissance qui vont, quand on se met d'accord avec la future famille d'accueil, comme il est très important pour le Tlingit d'être reconnu à sa naissance comme son incarnation précédente, car comme ils disent, nous sommes nos ancêtres, c'est une mémoire qui continue à travers le brassage génétique et de nouvelles aventures. Donc, mais il se
se mettent d'accord sur des marques de reconnaissance. Sauf que là, dans le roman, on est sur la butte Montmartre. Mmh. Et le vieux monsieur qui fait cette proposition indécente au jeune homme ajoute, bon, j'ai beau être, lui, il est professeur de linguistique spécialisé dans la langue tlingit, qui est une des plus dures au monde, qui n'est plus parlée que par 1000 personnes, mais c'est une langue extraordinaire, d'une complexité incroyable. Il y a consacré un dictionnaire de 1000 pages, et puis surtout, il a épousé une indienne tlingit, qui est l'incarnation de sa passion, et qui est la femme de sa vie, et il lui dit, bon, j'ai beau être fou d'amour pour ma femme et pour sa culture, je garde en moi un vieux fond de rationalisme, et je n'arrive pas à croire la réincarnation, mais je veux qu'elle meure comme on meurt dans son peuple, c'est-à-dire en faisant non pas ses adieux, mais en préparant son déménagement.
Et alors du coup, il y a un enjeu qu'on appelle le potlatch.
Alors le potlatch, c'est une coutume fondamentale qui n'existe pas d'ailleurs que chez les Indiens d'Alaska, on a la même en Amazonie,
ouais,
on a la, c'est une, sans doute une des plus vieilles coutumes chez les peuples premiers, c'est en fait la surenchère dans le don, c'est-à-dire vous faites un cadeau considérable, démesuré à quelqu'un qui doit en retour vous faire un cadeau encore plus considérable et démesuré jusqu'à la ruine mutuelle. Mais la ruine par l'enrichissement que peut vous apporter l'autre. Donc ce qui est assez extraordinaire, c'est un pari d'abord sur la confiance.
Oui, et c'est un transfert de moyens, quoi.
Oui, et puis ça permet de diversité, si vous voulez.
Oui,
Et tout à coup, alors évidemment, quand quelqu'un se soustrait au devoir, la loi de la surenchère du cadeau, c'est le crime contre l'humanité, quoi. C'est le péché mortel dans la culture. Et cette vieille dame regarde cette jeune femme comme sa future mère, et ça la fait assez craquer.
Oui, c'est vrai. Il y a un rituel d'ailleurs, il y a le festin des cendres, ça existe ça aussi?
Oui, et pas que chez les Tlingit, mais c'est vrai qu'on
on mange les cendres.
Ensuite, oui, on communie avec, en mangeant les cendres pendant ce festin. Alors là, ça va se passer d'une manière assez particulière,
oui,
assez sensuelle dans le roman. Mais
oui, enfin sensuelle, c'est vous qui le dites, hein. Moi,
dans la manière dont... Dans le fait Soline, vous savez, tout est, comme disait tout à l'heure François-Olivier Gisbert, la mort, ça sert à renforcer la vie.
Ouais. À la solidarité entre Niçois, ou presque, hein, parce qu'il est Marseillais, France. On va laisser la place à notre multiplex à travers la francophonie. France, Suisse ou Belgique? Tiens, que choisissez-vous, Didier?
À Belgique.
Belgique. Ben oui. Allons-y, Sophie Creuse.
Alors, d'abord, je vous dois un aveu, Didier Van Kovelaert. J'avoue, un peu de condescendance et beaucoup d'a priori pour vos best-sellers. Oui, que voulez-vous, je suis snob, comme disait Boris Vian, mais grâce à vous, un peu moins que tout à l'heure, parce que vous m'avez régalé. Et pourtant, une histoire de chamanisme sur la butte Montmartre et d'intelligence émotionnelle des plantes avait tout pour me faire fuir. Mais j'avoue que c'était sans compter sur votre humour, cette empathie vraie pour vos personnages, votre curiosité et puis votre talent de raconteur et de dialoguiste.
Bon,
merci.
Ça commence bien. France, Suisse...
France.
J'ai l'impression de faire un match de foot France-Suisse, c'est l'euro, tu
dois de stick.
On n'en peut plus déjà. Aussi, Mathieu Colombe.
Eh bien, me concernant, j'avoue avoir été assez charmé par votre roman. Parce que d'abord, comme vous venez de le souligner, ça aurait pu être une simple histoire d'amour au départ, hein, quand on lit la quatrième d'ouverture, mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. En plus, c'est servi avec une écriture très limpide, très drôle. Les personnages s'étoffent au fil des pages, c'est très agréable. Il y a une sensualité qui est omniprésente et qui est complètement assumée. Et du coup, ça donne vraiment un charme fou au livre. Et même si je suis pas vraiment un féru de ce genre de littérature, eh ben, ça a marché avec moi. Je me suis enfilé le livre avec une rapidité assez phénoménale. Donc,
on va voir du côté de la Suisse si elle confirme. Laura Sanchez?
Eh bien oui, je confirme, je ne vais pas allemand répéter. Donc oui, moi je voulais vous dire que cette histoire, bien que très rocambolesque, elle tient la route. On n'y croit jamais, mais on y croit quand même complètement. Et puis il y a ce zeste de sensualité entre les deux jeunes amoureux qui donne une touche complètement particulière à ce roman, qui s'adresse pourtant à un large public. Donc voilà, voici une bien bonne lecture pour l'été.
Un succès auprès de nos libraires, Didier Van Kovelaert.
Merci. Ce qui est formidable, c'est vrai que la vie des libraires, c'est capital pour un auteur. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un pays qui a gardé ses librairies. Puis la librairie, c'est toujours un lieu qui m'a fait fantasmer. C'est le premier lieu où j'ai fait l'amour, d'ailleurs. C'était la nuit dans une librairie fermée. Donc ça, que voulez-vous, on a un rapport après avec les mots, les livres et les libraires. Bah, je racontais ça dans le principe de Pauline un petit peu.
Ouais.
Et
c'est vrai.
Voilà. Alors, et puis bon, et la fidélité du public qui est aussi entretenue par le...
Non mais restons sur cette confidence, Didier. Restons sur ces propos. Oui, d'accord, oui. Oui, donc vous avez un lien particulier.
Vous savez, moi j'aime que tout marche ensemble. Oui. Au niveau des passions, quoi.
Oui, oui.
Et c'est vrai que la littérature, pour moi, est indissociable de la sensualité.
Oui.
Et le livre, même le toucher du livre. Il y a des taches de chocolat, des brins d'herbe, Voilà, c'est cette sensualité.
Ah, dans l'herbe aussi. Alors, du coup, puisqu'on reste sur cette sensualité et ce rapport, vous posez des questions, l'air de rien, dans ce roman, parce que ça a l'air léger, ça a l'air d'être une histoire d'amour comme ça. Alors, vous racontez quand même une histoire, une culture, hein, avec ces tribus d'Alaska, ça c'est très intéressant. Et puis, l'air de rien, il y a cette question sous-jacente. Faut-il laisser un tiers s'immiscer dans sa relation de couple? Ça aussi, c'est une question avec les conventions qui, évidemment, disent tout le temps non. Alors que, si l'on se place dans l'intérêt d'une tribu, dans l'intérêt d'un cercle de la société, c'est envisageable ça. C'est peut-être même souhaitable de laisser quelqu'un s'immiscer dans notre couple pour aider l'autre.
Oui, et puis il y a des surprises. Par exemple, jamais ce jeune homme n'aurait pu imaginer qu'un vieux monsieur de 90 ans pourrait constituer un véritable rival. C'est un vrai manipulateur, mais qui a besoin de faire le bien des autres, c'est-à-dire de marquer, d'être présent,
alors
d'avoir ce pouvoir-là.
Il y a le risque de la manipulation. Vous laisseriez, quelqu'un s'immiscer dans votre couple?
Faut savoir jusqu'à quel point. C'est un piège. Il vaut mieux parfois de vrais ennemis fiables que des bienfaiteurs qui peuvent devenir un peu toxiques.
Très bien, on va rester là-dessus. Merci beaucoup Didier Van Kobler.
Merci à vous.
Belle réflexion sur l'idée du couple et de cette possibilité aussi d'aider l'autre. Alors jusqu'à quel point a-t-on des limites? On en a forcément. On dirait nous est paru aux éditions Albin Michel. C'est aussi l'un des romans de l'été que vous allez forcément croiser dans les librairies et sur les plages. Ça vous gêne d'être lu sur les plages, tiens?
Mais non, c'est merveilleux de servir de l'écran au soleil.
Ouais.
Et puis c'est beau les gens qui lisent sur la plage.
Ah, je dis ça parce qu'un jour j'avais posé la question à un auteur qui vend énormément de livres français, que tout le monde connaît. Et j'avais dit, votre livre, on le lit dans le TGV, il n'avait pas du tout aimé. Vous voyez?
Ah ben moi j'adorais lui.
Bon,
un jour très rapidement une anecdote qui a marqué ma vie. Un jour j'arrive dans le TGV et puis je me mets sur une place qui n'était pas la mienne, mais qui était une place isolée. Arrive une dame très énervée qui me dit mais c'est ma place, voilà. Et elle se met à m'engueuler. Bon, je vais être plus loin. Elle s'installe en râlant, elle sort son sandwich sur la place et elle sort un bouquin et elle l'ouvre, tu sais, elle le casse en deux comme ça et elle se met à lire. C'était un livre de moi. Et là, il y avait ma photo derrière. Je voyais le regard des gens qui allaient de l'un à l'autre et tout à coup en lisant son visage se détend. Et j'ai passé donc une heure et demie de train à regarder l'effet que faisait le livre sur une dame énervée. Voilà. Moi, j'adore être lu partout et surtout être invisible pour regarder les gens me lire. Ça, c'est génial.
Merci beaucoup, Didier. Merci à tous nos libraires qui ont participé à cette émission aujourd'hui.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici l'artiste français Cédric Antonelli.
Je préfère jouer aux échecs et traduire du chinois en grec. Donner encore à toutes mes ex, me faire un trip à Anderlecht. La nuit avec toi, que passer la nuit avec toi. Je préfère mettre un pull qui gratte, parler à sous la mer.
Cédric Antonelli avec Passer la nuit, que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Anne-Laure Cochet, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Léa Dupuy-Henka en France. Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, le chanteur et écrivain camerounais Blik Bassi. Nous parlerons aussi de la géopolitique des Jeux Olympiques avec Pascal Boniface. Et nous irons en Ukraine avec le photographe suisse Nils Ackermann. Bonne semaine à vous, salut.